La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Vous écoutez La sexploratrice. Et comme je le dis souvent, la sexploratrice, on ne parle pas que de sexualité. On parle aussi de relations, on parle d'amour, on parle de tout ce qui touche l'humain, la famille. Et pour moi, ça devrait être évident qu'on puisse parler de sexualité comme on parle de politique, d'actualité, de sport. Parce que c'est quelque chose qu'on pratique dès un jeune âge, la sexualité. Donc, je veux faire de la sexploratrice vraiment un show qui devrait même monter dans la grille horaire, selon moi. Et là, ce soir...
C'est dit.
Ce soir, on reçoit le sexplorateur d'un soir, qui est un ami, un collaborateur. C'est quelqu'un qui est également un entrepreneur hyper inspirant. Avec lui, ce soir, on va jaser de son parcours. On va parler de son arrivée dans le milieu libertin, la découverte du milieu libertin. On va parler de BDSM. On va parler de trucs pour maintenir la flamme avec son amoureuse, avec qui il est depuis plus de 20 ans. Et on va également parler de bipolarité, puisqu'il est atteint de bipolarité. Il l'assume, il le vit avec ses défis, mais aussi avec tout ce que ça peut apporter de beau dans sa vie. Donc, ce soir, on a le bonheur d'avoir avec nous, au bout du fil, Mathéo, propriétaire du magnifique Club Belle à Montréal, mais également le conjoint de notre chère collaboratrice, André. Bonsoir, Mathéo.
Bonsoir, Mathéo.
Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Maxime.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation durant ta journée de congé.
Ben merci, c'est une super belle introduction. Merci beaucoup, Mélanie. Wow, ça me touche beaucoup. J'ai failli me mettre à pleurer. Fait que, c'est super gentil.
Je suis super contente de t'avoir avec nous, vraiment. Les explorateurs de soir, en fait, on aborde toutes sortes de choses avec nos invités, mais évidemment qu'on parle de ton parcours. Et moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. C'était qui, Mathéo, avant l'arrivée du Club Elle dans ta vie?
Mais juste avant qu'on commence à en parler, là, je vous écoutais parler de l'éclipse.
Oui, c'est vrai.
Je trouvais que vous étiez déçu. Moi, c'est le contraire. Je vous dirais, j'avais pas d'attente avant de commencer à la regarder. Puis surtout que André était tellement excité. Fait que, tu sais, j'ai laissé l'excitation à André pendant toutes ces semaines. Puis je vous dirais même pendant l'année, parce que André, les lunettes qu'on avait aujourd'hui, qu'on portait, elle les a commandées il y a un an. Quand André, elle a su qu'elle allait avoir un éclipse, elle est allée sur Internet et elle a commandé tout de suite les lunettes il y a un an. Fait que, tu sais,
wow!
elle avait ça au-dessus de son bureau, dans l'enveloppe qu'elle avait reçue. Et puis, souvent, elle la sortait, puis elle nous en parlait, puis tout ça. Puis, elle est allée acheter le journal, tous les journaux en papier, là, tout ce qu'il fait donner comme information pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Tu sais, il y avait toute cette excitation-là. Fait que moi, j'étais comme...
Oui, puis en plus, je crois que vous étiez quand même un peu dans la bande. Vous avez vécu vraiment la noirceur de votre côté.
C'est ça. On était vraiment sur le bord, là, parce que on montait peut-être de 1 km, on n'était plus dedans du tout. Là,
ben, c'est ça. Je pense que l'expérience doit être différente pour les gens, selon où est-ce qu'on est situé.
Je vais vous dire, moi, là, pendant l'heure avant, là, quand on regardait le croissant, tout ça, ben, je vais vous dire, bon, OK, on avait les lunettes, je rentrais une fois de temps en temps dedans, je cherchais un petit verre, je retournais dehors, je regardais ça, puis, tu sais, il y avait toutes nos filles qui étaient là, il y avait la voisine dans l'arrière aussi, puis là, ben, on jasait, on riait de ça, mais le moment que l'éclipse totale est arrivée, là, ça, là, tu sais, le moment qu'ils ont dit, vous pouvez enlever vos lunettes maintenant, il n'y a pas de danger, là. Sérieusement, c'était extraordinaire.
Magique.
De voir le ring autour de la lune. Tu sais, c'était silver, c'était beau. Puis, ça, c'est le fun, parce que ça, je ne m'en attendais pas. Puis ça a fait, c'était cette image-là de dire, ah, OK, c'est donc bien hot. Ça, je l'avais pas vu. Dans la tête, c'était juste la noirceur, le froid, puis tout ça qui allait passer. Mais je savais pas que ça faisait ce feu-là autour de la lune. C'est comme si la lune était en train d'exploser parce qu'elle était rendue trop chaude à cause du soleil. Fait que j'ai adoré ça.
Ah, ben génial!
L'heure qui a suivi, j' ai laissé tout seul André sur la galerie parce qu'elle voulait voir le croissant descendre au complet.
De l'André. Je sais que pour elle, ça a aussi une signification énergétique. Puis, il y avait tout un processus aussi là, derrière ça, là, une bonne signification, là, vraiment.
Exact. Fait que voilà, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça trippant comme expérience. Je remercie André d'être venu me réveiller. Parce qu'habituellement, le lundi, c'est ma journée que je dors. Je pense que c'est vraiment ma journée de repos. Là. Mais voilà, fait que c'était mon expérience.
Ben,
merci beaucoup.
Ben c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça et d'avoir accepté notre invitation ce soir, comme je disais. D'ailleurs, on a réussi à se connecter en live sur TikTok, donc le TikTok de la Sexploratrice. On vous invite également à suivre le TikTok de Choix 98h Radio X. Par contre, on vous invite à interagir avec nous via le 418-670-9098 pour tout commentaire, suggestion, si vous avez des questions pour notre invité, qui est ce soir le Sexplorateur de soir, Mathéo Lapointe. Oui. Collaborateur, ami, entrepreneur et propriétaire du Club L de Montréal. Ouais. Donc, Mathéo, qui était Mathéo avant le Mathéo du Club L? Parce qu'il y a comme, on dirait qu'il y a comme un switch dans ta vie, hein?
Oui, il y a eu un avant. Il y a eu, je vous dirais, si je parle de ma jeunesse, ça a été un garçon qui aimait faire rire en classe, qui était très turbulent. Je suis né à l'époque que le TDAH n'existait pas encore. On était juste le petit monstre dans la classe. Mais que les professeurs me trouvaient super attachant. Donc, c'est peut-être ce qui a réussi à faire me faire passer au travers, je te dirais, mes études de primaire, secondaire, parce que par la suite, après ces moments-là, je suis parti en voyage parce que je voulais pas rester autour de chez moi. J'avais pas eu une enfance. J'avais une enfance qui était le fun, mais j'avais eu une famille qui était très, très sévère. J'ai grandi dans une famille qui était évangélique baptiste. Donc, les péchés, c'est assez grave. Donc, j'ai été élevé à coups de palette aussi parce qu'on disait aussi que qui aime bien châtie bien.
Donc, toi, tu as été élevé par une famille religieuse.
Ouais, mais mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur sont encore très pratiquants. Ils sont encore dans l'église évangélique baptiste, ils ont tout.
Et là, tes parents ont pris ça comment? Ben, en fait, comment c'est arrivé le milieu du libertinage dans ta vie? C'était, ben, est-ce que c'est à un moment là, tu t'es dit là, un peu comme on sort d'une secte ou des témoins de Jéhovah, par exemple, est-ce ben, que c'est ça que tu as vécu un peu?
Tout à fait. Oui, oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que, ben oui, c'est sûr que quand que. Bon, j'étais renié de l'Église à 16 ans. Oh. Oui, à la fin de mon secondaire 5, j'étais renié de l'Église. C'est une bonne histoire, oui, je peux la raconter aussi.
Bien, certainement.
Oui, quand j'étais en secondaire 4, secondaire 5, mes deux dernières années, il y a eu un projet qui a été en 93-94 au Québec par l'Association des Églises Baptistes Évangéliques. C'était, il a appelé ça le projet, c'était un pasteur par église. Et ce programme-là qui avait été créé, c'est que à chaque église du Québec, il prenait quelqu'un qui allait lui l'envoyer dans une école à ce moment-là pour pouvoir en prendre à devenir pasteur. Fait que tu étais en Nouveau-Brunswick, tout ça. Moi, j'avais été choisi par mon église et puis je m'en allais à Pensacola, à Clemson College.
Pour
devenir pasteur, oui.
Mais est-ce que c'est à ce moment-là, c'était vraiment ce que tu voulais ou tu voulais juste réaliser le rêve de tes parents ou le vouloir de tes parents?
Oui.
C'est spécial parce que j'ai de la misère à, tu sais, ça a été une période qui a été très dure dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup de vide. Et puis, moi, je me rappelais que j'aimais ça pouvoir le dire. À l'école, vu que j'étais pas très, très pratiquant, puis tu allais dans une école quand même, dans Salésien, qui était, oui, religieuse, mais pas tant, tu sais, c'était pas énorme non plus. C'était pas comme évangélique baptiste. Mais c'était plus l'image que les preachers avaient dans ces années-là, aux États-Unis. C'était beaucoup, tu sais, c'est des rock stars. C'était, tu sais, quand tu regardes les preachers comme Jimmy Swagger, qui était connu à cette époque-là, puis qui a été détruit par la suite aussi par Larry Flint. Mais, tu sais, c'est des gens qui avaient quand même un sermon qui était rassembleur. Ils remplissaient des églises, et puis c'était même les stades aussi quand ça se promenait, tout ça. Fait que oui, j'aimais ce côté-là, sauf que j'y croyais pas autant. Fait que, tu sais, mais je grandissais là-dedans. Tu sais, moi, tous les dimanches, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Fait que, tu sais, ça durait toute la journée. Les mercredis soirs, on avait les rassemblements de prière. Fait que, tu sais, j'ai pratiqué.
Et tu pratiquais quand tu priais, est-ce que tu croyais vraiment en Dieu ou tu le faisais par habitude ou par, je sais pas comment expliquer ça, là, mais est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu croyais en Dieu?
Est-ce que je croyais en Dieu? Non, je ne croyais pas. Mais j'aimais ce côté rassembleur-là. C'est très rassembleur, les églises, hein, parce que les gens sont là pour s'entraider.
Ouais. Bel esprit de communauté. Un peu ce que tu as créé avec le Club L.
Ben, c'est vraiment ce que. C'est les valeurs que j'ai ramenées. C'est très spécial parce que même dans ma vie aujourd'hui, c'est pas que je crois que je vais mourir à l'enfer, sauf que je crois que le bien que je fais est important Et puis, tu sais, autant le partage, l'entraide, tu sais, je vois quelqu'un qui est en souffrance, tu sais, ou je vois des gens qui sont, tu sais, mes filles s'en rendent compte aussi, tu sais, papa, s'il y a quelqu'un qui est en chaise roulante, puis il est pris sur le trottoir, puis c'est en auto, ben, je vais arrêter sur le bord du chemin, puis je vais aller aider la personne à se déplacer, tu sais.
Ouais.
Puis mes filles l'ont vu, des enfants comme ça, puis ils me le ramènent aussi. Mais pour moi, c'est des valeurs qui sont pas religieuses, c'est des valeurs qui sont importantes dans notre société, que si on veut qu'elle avance beaucoup mieux, qu'elle soit plus belle, ben qu'on va tout dans ce sens-là, tu sais.
Oui, absolument. Ça prendrait plus de Mathéo dans la vie.
Puis je le vois aussi beaucoup sur le karma. Tu sais, hier, j'ai fait écouter un film, André, que j'avais déjà écouté auparavant, Atlas Cloud. Et puis, ça parle du karma. Puis moi, je me suis endormi sur le film. Mais André, à la fin, quand le film a terminé, je me suis réveillé. Et puis, elle m'a remercié de l'avoir écouté. Puis j'avais fait écouter à 2-3 personnes qui m'ont dit, oh, oui, c'est une belle leçon de vie du karma.
Peux-tu renommer le titre du film?
C'est Atlas, Cloud Atlas.
OK, donc, et c'est sur Netflix?
Non, André, t'as les chercher, je pense, sur Internet, on t'a
libéré.
Ah,
OK. Ouais. D'accord.
Mais c'est un film avec Tom Hanks. Il y a Halle Berry aussi qui est dedans. Il y a des gros acteurs, là.
C'est la cartographie des nuages en français, c'est ça?
Ça se peut, oui.
Ouais, c'est un excellent film, ça. Vraiment, c'est à voir.
Ouais.
Si jamais vous avez jamais vu ça, là, c'est un film dans lequel tu plonges puis tu ressors pas jusqu'à temps qu'il finisse.
Ah, ouais.
Ouais, vraiment.
OK. À écouter, tout le monde.
Ben moi, je suis plongé dans un sommeil, fait que j'ai pas.
Ben, c'est ça, dans tous les sens du terme.
Donc.
Donc voilà, fait que j'ai été. Ce qui est arrivé, c'est qu'en secondaire 5, quand tout était prêt, j'avais même été faire des tests aux États-Unis pour savoir à quel niveau d'anglais j'étais, puis par exemple, tout ça. L'idée d'en rencontrer mes parents. Parce que j'avais une conjointe à ce moment-là qui n'était pas évangélique baptiste, puis ça, c'est très mal vu. Et puis, ils ont demandé à mes parents si j'avais eu des relations sexuelles. Et mes parents m'avaient pris, mais le savaient. Donc, ils ont dit oui. Ils ont dit oui à l'église. Et au lieu de me protéger, ma mère, elle a préféré me dénoncer que j'aille là-bas. Puis on en a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est spécial. J'ai demandé pourquoi qu'elle l'avait fait. Pourquoi que elle dans sa vie, elle avait aimé mieux que j'aille pas là-bas.
Ah, et puis, pour t'éviter?
Ouais,
volontairement.
Ma mère m'a dit que c'était, elle a eu peur que je mette des femmes enceintes là-bas, parce qu'elle disait que, ouais,
elle disait okay, que, je ouais. pensais. Oh.
Ouais, elle avait peur, vu que j'avais des relations sexuelles, ma mère, tu sais, elle, pour elle, ça lui dérangeait que j'aille là-bas, puis que soit que je couche avec plusieurs filles ou que tout ça, parce que c'est quelque chose qui lui dérangeait par rapport à la sexualité.
Tu sais, okay.
Chez nous, j'avais pas le droit de me masturber. La masturbation, c'était pas bien.
Ah non, c'est ça, tu vas en enfer si tu te masturbes.
Tout. Fait que là, quand ils ont su que j'avais des relations sexuelles avec Sophie à ce moment-là, ben, l'Église a carrément dit, on peut plus le prendre sur ce projet-là. On annule tout. Et puis, j'ai rencontré les directeurs de l'Église, le pasteur, puis toutes les autres qui font partie de cette association-là. Et ils ont carrément dit, ben voilà, si tu veux continuer, parce que là, les gens à l'Église donnaient, c'est 10% de ton salaire que tu donnes quand tu vas dans une Église comme ça. Et puis, il y avait un montant qui allait là pour m'aider à payer ces études-là. Fait que, il y avait comme eu un moment, puis il m'avait demandé d'aller m'excuser devant toute l'Église. Il fallait que j'aille faire un mea culpa, de dire, j'ai péché, tout ça, je m'en excuse. Mais ça, c'était pour voir. Puis moi, j'ai refusé de le faire, puis j'ai plus jamais remis les pieds dans l'Église.
Et est-ce que tes parents t'ont renié également à ce moment-là, ou t'as gardé le bon?
Je suis parti moi-même. Je suis parti à moi. Il n'y a pas eu besoin de le faire, ouais.
Okay.
À ce moment-là, je suis allé vivre chez mon ex, chez Sophia, puis ses parents m'ont accueilli à ce moment-là.
Okay.
Puis ils voyaient, fait que c'est ce qui est arrivé. Puis par la suite, aujourd'hui, ma mère, elle essaie toujours, par rapport à la façon que je vis ma vie aujourd'hui, que j'ai un club libertin, que je reçois des gens chez nous pour avoir des relations sexuelles, c'est comme qu'est-ce qui m'a fait renier de mon église, d'où est-ce que j'allais, pour aujourd'hui d'en gagner ma vie et le vivre pleinement, puis le vivre, je suis heureux de le voir, je suis heureux que les gens s'épanouissent là-dedans, sans qu'il y ait de tabou, puis de voir les gens qui arrivent stressés, qui arrivent comme avec, t'es frébrile, mais tu sais pas trop de ça.
Ouais.
Puis que quand ils vivent, puis que je suis à la sortie du club, puis qu'ils me racontent, puis c'est leur première visite, puis ils ont trippé, puis tout ça, on rentre pas dans les détails de qu'est-ce qu'ils ont vécu, sauf qu'ils me disent, je le vois dans les yeux que ces gens-là se sont retrouvés encore. Il y en a qui m'écrivent des messages sur Facebook, il y en a qui m'écrivent des messages en privé. Je reçois des cartes à Noël pour les gens qui me disent, Mathéo, ça l'a sauvé notre
vraiment,
couple.
Vraiment, c'est une mission de vie que toi et André, vous avez créé quelque chose qui est vraiment utile pour les gens qui les aident dans leur épanouissement de vie.
Ben, on le prend vraiment à cœur. Peut-être que c'est parce que c'est qu'est-ce que j'ai vécu, mais tu sais, je le dis à ma mère, je dis à ma mère qui prie encore à tous les jours pour que je devienne le pasteur à son église, parce que pour elle, c'est une grosse... Oui, puis elle me le dit, ma mère, là, c'est comme, c'est important. Ma mère...
Encore aujourd'hui, comme... elle est très croyante.
Oui, encore, puis elle va prier toujours, avec puis même dans ses réunions de prière, tout ça. Puis je dis, maman, tu n'as juste pas compris. J'ai dit, tu sais, l'église que tu aurais voulu que j'aille, c'est juste pas la même église que toi, tu le vois, tu sais. Et puis, oui.
Vu de même.
Mais comment ça s'est passé, Mathéo, lorsque tu es sorti de cet environnement? Là, d'un environnement où l'Église était prédominante. J'imagine que ça a été pour toi une façon de t'émanciper, de t'affranchir de cette Église-là et aussi de renouer avec ta propre vérité. Ce passage-là, d'en terminer avec l'hypocrisie dans laquelle tu vivais parce que tu étais à demi-croyant, tu t'évoluais dans un milieu où c'était extrêmement croyant. Comment t'as fait pour te réapproprier ta personne puis voler tes propres ailes par la suite?
Ben, ce que j'étais chanceux, c'est que j'allais pas dans une école évangélique baptiste, comme mon frère envoie ses enfants présentement. Donc, j'avais quand même des amis du secondaire, tu sais, des amis d'école avec qui j'allais, puis j'avais ma gang avec qui j'étais les fins de semaine pour aller à l'église, tu sais.
Okay.
Donc, j'ai été obligé de faire une croix sur cette partie-là de ma vie, de dire, ces amis-là, je veux plus les voir. Tout ça, ça faisait plus partie de ma vie du tout. Et puis, mes amis du secondaire, ben, j'ai eu la traversée au cégep à ce moment-là, qu'on perd tous ces amis-là aussi. Parce qu'on s'en va dans plein de domaines, puis tu as des cégeps, puis il y a des gens qui partent à Montréal, tout ça. Fait qu'il y a comme eu cette transition-là. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis parti en voyage. Je suis parti faire 6 mois en Europe. J'ai fait 6 mois dans l'Ouest canadien. J'ai fait pratiquement un autre 6 mois aux États-Unis. Et puis quand je suis revenu, quand j'avais trippé en voyage, tout ça, je m'étais dit, je vais essayer de me trouver une job, puis je vais essayer de me retourner aux études dans un domaine que je vais aimer. Mm-hmm. Et puis qui va me permettre de voyager. Fait que je suis allé faire un cours en restauration, un cours de service de la restauration. Et puis.
C'est sommellerie, je pense, ou c'est André qui est sommellerie?
C'est exact. Ben, moi aussi, c'est drôle que tu poses la question parce que moi et André, on s'est rencontrés là-dedans.
Grâce à la sommellerie.
Exact. C'est que moi, j'ai commencé à faire du service, j'ai trippé. Et puis, j'ai commencé à travailler dans des bars.
Tu étais en couple à ce moment-là avec ta première conjointe?
Oui, exactement. J'étais avec Stéphanie dans ce temps-là.
OK.
Avec une fille que j'avais rencontrée dans le milieu de la restauration.
Oui.
Et puis... Par la suite, j'ai dit, je vais faire mon cours de sommellerie, comme ça, je vais pouvoir peut-être travailler sur des bateaux de croisière, être le sommelier sur bateau de croisière. Tout.
Oui.
Finalement, avec mon ex-conjointe, on a commencé à avoir des petits problèmes relationnels, ce qui est tout à fait normal. Bon,
un couple monogame à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Ben, okay. J'ai jamais trompé de mes blondes. J'avais toujours cru qu'il ne fallait pas le faire, tout ça. Mais elle, c'était peut-être pas dans ses intentions. Parce qu'elle m'avait trompé, une couple de fois.
Oh.
En nos relations que j'avais fini par découvrir. Soit c'était soir même.
Une couple de fois. Oui. Ça te brise une confiance, ça?
Ben, non, parce que c'était pas quelque chose qui me dérangeait.
Ah non?
Ouais. C'est là-dessus que je me suis rendu compte.
Parce que toi, t'es hyper compersif, hein?
Eh bien, je suis très candoliste.
Ouais, très, ok, très, très, aussi très candoliste. Candoliste, c'est d'aimer voir son partenaire avant de plaisir avec quelqu'un d'autre devant nous.
Mais je comprends, mais au moment où il n'y avait pas d'entente dans le couple, c'était pas un peu un bris de confiance assez important au sein de votre union?
Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu l'as vécu comme une trahison ou?
Exact.
Non, je l'ai vécu comme une excitation.
Ah ouais.
Ouais, okay. c'est bizarre, hein. Puis j'en ai parlé déjà des amis qui sont candolistes. Et puis c'est. Ouais, fait que là, j'apprenais, par exemple, puis. J'ai posé des questions. Fait que là, j'ai posé des questions comment ça s'est passé. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Puis là, je voulais avoir des détails. Puis plus qu'elle me racontait des détails, plus que ça t'allumait. Excité.
Oh.
Ouais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, genre, qu'on commençait à baiser ensemble. Puis là, je demandais de me raconter des affaires. Puis là, je devenais.
Ça t'excitait de t'imaginer ta conjointe avoir des relations avec quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Fait que t'es vraiment un candoliste.
Et au moment où tu réalises ça, est-ce que c'est la première fois que t'es confronté à ce genre d'idée-là?
Oui. Ouais. Là, c'est ça. Puis là, ça vient bizarre dans ta tête parce que ça t'excite tellement que tu veux, la prochaine fois que tu as une relation, c'est qu'elle te le raconte encore.
Mais là, on demeure quand même dans le fantasme, là, parce que tu ne l'as pas vu en réalité là, à ce moment-là,
ouais,
quand elle te raconte
ouais,
tout ça.
Et c'est ça. Oui, ça, c'est vrai. Ça, ça restait un fantasme.
OK.
Je me fermais les yeux puis je voyais les détails. J'ai une très bonne imagination. Puis là, je me rappelais qu'elle me racontait à un moment donné que ça avait fini une soirée puis elle avait été à l'hôtel. Puis moi, je connaissais cet hôtel-là. Fait que, c'était comme capable de me l'imaginer. Puis pendant qu'elle me le racontait, ben c'est ça. Des fois, je pouvais me masturber ou ça, c'est comme après. Là, c'était juste après. Et puis c'est arrivé jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit dans un bar. Et puis je le vois qu'il y avait un gars qui a trouvé de son goût. Et puis j'ai demandé si ça voulait qu'on le ramène à la maison.
Oh!
Ouais.
Hey, mais là, ça doit être plus difficile de ramener un homme qu'une femme, mon feeling. Pour un couple.
Ouais, non, c'est la personne nous a demandé un petit peu comment ça allait se passer. Puis moi, j'ai dit, moi, je pourrais juste regarder. Puis là, il y a eu du genre, mais moi plutôt, on ne se touchera pas. Ouais, ça a été. Ouais, on était à la gueule.
C'était pas du triolisme, là. C'était. OK. C'était vraiment une séance de candolisme.
C'est ça.
Oh mon Dieu, je vois le temps qui file, là. On a encore tellement de sujets. Je veux qu'on parle de BDSM, de bipolarité, de tes secrets de couple avec ta belle André et l'arrivée du Club L dans ta vie, la caisse populaire, finalement, qui s'est le potentiel que tu as vu dans la caisse populaire. Mais on va devoir aller à la pause, Mathéo.
Parfait.
Ça n'a pas de bon sens. Déjà, la moitié du show qui est passé. OK. Allons-y. On va à la pause et au retour, on aborde la suite de tout ça qui est vraiment fascinante. Tu restes avec nous, j'espère?
Parfait, oui. Je vais faire le pont après ça avec ma relation d'André, vous allez voir.
Yes! Merci! Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice. On est en live sur TikTok si vous voulez un soutien visuel à tout ça. La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec la sexploratrice Mel Trudel, Max Lacasse et notre sexplorateur d'un soir, Mathéo Lapointe, inspirant entrepreneur qui est également propriétaire, copropriétaire du magnifique Club L, mais aussi le conjoint de notre magnifique collaboratrice André Lunange pour les intimes, qui est également copropriétaire du magnifique Club L. On a plein de sujets à aborder avec lui ce soir, mais juste avant, je dois vous parler de l'encan Radio X. Si vous voulez épargner, trouver de vrais deals, eh bien, visitez le nouvel encan Radio X en cliquant sur l'onglet encan au radiox.com. Pour vrai, c'est fou, là. Il y a des tonnes d'items, seulement 25 %. La mise à départ est de 25 % de la valeur. Donc, du karting, un collier, une chaîne en or, des jeux gonflables, location d'un campeur autonome haut de gamme, séjour à l'hôtel, forfait de restaurant, airsoft pour 30 personnes, journée de pêche, four à pizza, ensemble de tondeuse, certificat porcelaine en asphalte, Radio Bluetooth et bien plus. Je le répète, la mise au départ est de seulement 25 % de la valeur. Donc, imaginez payer une fraction du prix pour une radio Bluetooth et un chargeur.
C'est la belle vie, ça.
Mais c'est une farce.
Ah-ha.
C'est une vraie farce. Et ça, c'est une valeur de 399 $, une gracieuseté de Fixatec. Hey, merci. Ça n'a pas de bon sens. L'enquête se termine le 14 avril. Donc, si vous voulez économiser, ne tardez pas à miser maintenant. Cliquez sur l'onglet Encan sur le site radiox.com. Économisez gros grâce à l'Encan Radio X en un seul clic. De retour avec notre sexplorateur d'un soir, Mathéo Lapointe.
Bonsoir.
Mathéo, donc tu nous as parlé un peu de ton parcours avec l'Église, ce que tu as vécu finalement par rapport à la religion et tout. Tu t'en es sorti, tu as voyagé, tu as découvert le candolisme. C'est là que tu as découvert le libertinage finalement, que tu as mis un peu le pied là, dans le milieu.
Exactement. Oui, c'est là que ça a commencé. C'est là aussi que ma relation, finalement, elle a terminé avec cet ex-là que j'avais. Et puis, je me suis retrouvé célibataire. Donc, je me suis dit, c'est le moment de commencer à avoir des expériences, puis de vivre là-dedans. Et puis, je continue à travailler en restauration. Et puis, une soirée que je m'étais fait inviter par un couple à aller rejoindre dans leur chambre de Bed and Breakfast. Dans ce sens-là, c'est des Bed and Breakfast, c'est pas Airbnb.
Oui,
Airbnb,
c'est pas.
Oui, c'est ça. Puis, j'avais été les rejoindre dans leur chambre. Je m'étais amusé avec eux autres, les trois ensemble. Ça a été une super belle expérience. C'est comme ma première fois que je fais m'amuser avec un couple, puis embarquer. L'homme était bisexuel. Moi, j'avais jamais eu d'expérience avec un homme. Et puis, c'est là que je me suis découvert. Je me suis dit, c'est donc bien le fun de partager une soirée une fin de soirée comme ça, ça a été une nuit. Les trois ensemble, sans voir de barrière. Donc, et j'avais, c'est ce qui était spécial, c'est que j'avais jamais eu d'attirance pour un homme. J'avais jamais eu, tu sais, je m'étais jamais, un gars qui se déshabillait à côté de moi, dans les douches quand je faisais du sport. J'ai jamais regardé le pénis de quelqu'un puis être excité. J'avais jamais eu, tu sais.
Pas d'attirance du tout.
C'est ça. Mais là, de voir un pénis pénétrer une femme et puis de le voir... Tu sais, puis là, on retourne, on va en arrière. Moi, dans ce moment-là, l'Internet n'existait pas. Tu sais, où ça commençait. Tu sais, fait que c'était pas... tu sais, c'est des photos des magazines puis tout ça. Puis déjà là, je me sentais mal de regarder ça parce que j'avais eu une enfance qui avait été dit que la sexualité, c'était pas bon, tu sais.
Ah ouais, là, t'allais dans le péché pas mal.
Puis là, j'étais dans le live, tu sais. Puis moi, j'aime dire best porn, c'est la live porn, tu sais, c'est quand c'est live, c'est encore bien mieux, tu sais. Fait que là, je découvre ça. Wow, tu sais. Puis le couple commence à me parler, qu'ils vont dans des endroits libertins, puis que c'est dans ça là, c'est des clubs échangistes, puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à faire quelques recherches.
Ok.
À ce moment-là, puis pas longtemps après, je rencontre André. Et puis on s'est rencontrés.
Elle n'était pas, elle n'était pas du tout du milieu libertin, là.
Ah, puis moi, j'étais à Sherbrooke. Elle était à Montréal.
Oh, relation à distance en plus.
Mais ces premières expériences-là, Mathéo, est-ce que c'était conflictuel à l'intérieur de toi lorsque tu les vivais par rapport au passé dans lequel tu avais grandi?
Ouais. Oui. Puis c'est fort parce que même encore aujourd'hui, je peux avoir des moments de pas de remise en question complète, mais est-ce que c'est bien la façon que c'est fait? Est-ce que c'est bien la façon... Ouais.
À cause de l'environnement dans lequel tu as grandi?
Oh, ces valeurs-là, les valeurs religieuses, c'est des valeurs qui sont incrustées quand même dans ma vie. Et peut-être la seule valeur que, tu sais, j'étais capable de mettre un X dessus, c'était au niveau de dire que c'est pas grave, c'est au niveau de la sexualité. Puis c'est parce que j'ai fait des recherches, tu sais.
Qu'est-ce que tu veux dire? Quel type de recherche?
Ben, par exemple, est-ce que quand le Nouveau Testament a été écrit ou quand les Anciens Testaments, est-ce que les gens étaient monogames pour vrai?
Et tes recherches ont porté à quoi?
Ben, c'est facile quand tu regardes le roi David dans la Bible, quand on regarde, c'est tous des hommes qui avaient plusieurs femmes.
Non, et si on se fait à la Rome antique aussi, les orgies étaient très populaires.
Ben oui, mais oui, vraiment. Je suis allée justement aujourd'hui dans un musée sexuel là, à Montréal, et c'était qu'il y avait. Oui, je t'en reparlerai. Non, sur le deuxième étage d'une boutique érotique. Je t'en reparlerai, Max, de toute façon, on va en parler. Mais c'est ça, il y a des artefacts, il y a des trucs comme ça, là, que c'est que ça, là. Des orgies entre hommes, avec des femmes. Exact. C'est fou.
Donc, voilà. Fait que c'est là-dessus que je suis capable de me dire, j'ai arrêté de transgresser, par exemple, une loi de Dieu ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas vrai. C'est pas une loi de Dieu. C'est une règle humaine. C'est l'humain qui a mis ces règlements-là. Il faut être monogame. Fait que tout ça. Fait que pour moi, c'est là-dessus que j'ai été capable de l'enlever, cette culpabilité-là que je peux avoir par rapport à la sexualité. Mais si tu me dis, Mathéo, tu pourrais-tu voler quelque chose comme ça dans un magasin ou tu pourrais-tu commettre une fraude ou quoi que ce soit? Non, je serais pas capable, tu sais. C'est ces valeurs-là que je dis, OK, ça, c'est pas, ça fait pas partie de péché, d'ailleurs.
C'est l'Église, en fait, qui a imposé le couple à deux, le couple monogame pour assurer la survie et le patrimoine parce qu'en réalité, c'est contre nature. Là, on n'a jamais été capable de prouver que l'humain était monogame. Contrairement à certaines races d'animaux, des trucs comme ça, dans la génétique, on est capable de voir. L'humain, c'est impossible. Donc, c'était pour assurer la survie parce qu'en réalité, puis il y a même, en tout cas, c'est feu Yvon Allaire là, qui nous avait sorti une statistique comme quoi il y a 10% des enfants qui sont même pas du père, qui sont d'un autre père que le père de puis ça date aussi de l'époque. Donc
mais j'y crois, tu sais, je crois quand même qu'il y a des gens qui vont être monogames, tu sais.
Oui, mais ben oui.
Puis j'ai rien contre aussi, puis j'aime dire quand les gens me parlent de mon club puis quoi que ce soit, tu sais, que non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, c'est pas que tu vas rentrer chez nous puis tu vas t'épanouir puis que tu vas dire waouh, c'est fait pour moi. Non, ça peut arriver que tu rentres chez nous puis tu aies un choc.
Mais t'sais, vraiment
que tu parles avec ton conjoint pendant des années puis tu décides de venir au Club Elle, tu rentres, puis finalement, cette communauté-là, ces gens-là autour de toi ne sont pas faits pour toi. Leur pratique sexuelle n'est pas faite pour toi, puis c'est correct. C'est ça que je dis. Puis c'est correct de dire, OK, on l'a essayé, c'est non, c'est fini, on passe à d'autres choses. C'est important, là, tu sais.
Mais vraiment...
J'ai pas une vérité absolue.
Puis, comme je le dis souvent, je pense que c'est possible d'être heureux avec un seul et unique humain toute sa vie.
Oui.
Mais selon moi, c'est presque impossible qu'à un moment ou un autre, tu ne sois pas attiré par quelqu'un d'autre. Puis c'est là que les gens ben, en discutent ensemble ou pas et tu décides de passer ou non la barrière ou d'ouvrir ton couple ou pas. Ouais. Mais il y a des gens qui vont être heureux là, avec un seul et unique humain toute leur vie. Puis les petites envies qu'ils ont d'aller ailleurs, ben, ils laissent passer puis ils respectent l'entente de leur couple plutôt que de proposer d'aller ailleurs ou de tromper leur conjoint, leur conjointe.
C'est ça. Ils ne se mettent pas la main dans l'engrenage.
Voilà.
Ils n'acceptent pas, une date. Ils n'acceptent pas d'échanger sur Internet des messages ou des vidéos. Tu sais, tout ça. Puis, tu sais, la tromperie, c'est tu ne te trompes pas par accident. Là. Tu ne sais pas retrouver. C'est pas parce que tu t'es enfargé que tu vas te retrouver ton pénis dans l'engin de la personne. C'est un processus. C'est un processus d'excitation. Puis, tu sais, quand je vois, puis, tu sais, c'est spécial, c'est que. Mais j'ai beaucoup de mes amis qui sont en couple, qui ont trompé leur blonde ou sont venus au club, tu sais, maintenant, aujourd'hui. Mais, tu sais, que quand tu leur poses la question, comment ça qu'ils se sont rendus jusque-là, c'est que, tu sais, bon, c'est une collègue ou ça a été quelqu'un qu'ils ont rencontré, qui ont échangé le numéro de téléphone. Mais, tu sais, au moment que tu as échangé ton numéro de téléphone, c'est pas juste parce que tu l'as été mis avec elle. Tu sais, t'as quand même l'arrière-pensée de dire, oh, ça peut. Puis après ça, tu échanges avec cette personne-là. Puis après ça, tu sais, échanges des messages. Puis tu donnes. Tu sais, c'est un processus. Puis je pense que c'est ça aussi qui dérange le plus l'être humain. C'est de tu sais, le conjoint, c'est de dire, hey, ça a été préparé. C'est pas vrai que ça a été dans une soirée, j'étais sous, puis après ça, je suis juste tombé là-dedans. Là. Non, ça a été un long processus, puis l'affaire a été nourrie. Là. C'est nourrir la bête à ce moment-là.
Et comment tu vis ça, toi, aujourd'hui, Mathéo? Est-ce que tu pourrais dire que t'es en couple? Ben, t'es en couple avec André du Club L. Oui. Est-ce que t'es en couple avec André? T'es aussi en couple avec d'autres femmes ou t'es en couple avec André et t'entretiens des relations avec d'autres femmes? Parce que pour moi, il y a quand même une grande nuance entre les deux.
C'est une bonne question que tu me poses parce que je me suis jamais posé la question si j'étais en couple. André, je suis en couple. André, j'ai mon couple, j'ai la famille, j'ai les enfants, nos filles. J'aimais bien. Tu sais, j'ai nos valeurs ensemble. Tu sais, le duplex, le club.
On dit le couple socle, hein, je pense, dans le milieu du polyamour.
Ouais, mais j'ai d'autres relations amoureuses à côté que je vais avoir, mais que peut-être que je crois que eux vont être éphémères. Tu sais, je sais déjà à la base que
t'as moins d'engagement avec ces personnes-là, mais
oui,
tu profites
exact.
Du moment.
C'est ça. C'est peut-être des relations que j'appelle amoureuses parce qu'il y a du partage, il y a de l'entraide.
Oui.
Tu sais, on va avoir des beaux moments ensemble. Mais je sais que j'irai pas acheter un immeuble avec cette personne-là, peut-être. Sais que j'aurai pas d'autres enfants avec une autre personne.
Donc, t'es dans une formule quand même de polyamour. Par contre, t'as une seule et unique conjointe avec qui tu construis quelque chose, avec qui t'es engagé, avec qui t'as ta famille, tes enfants.
Oui.
Les autres personnes, ben, c'est pour s'amuser finalement et c'est plus.
Passer du beau temps, puis pas toujours être à la maison. Je sais qu'André, si j'étais 7 jours sur 7 à la maison, m'endurerait pas. J'ai un type de personnalité aussi qui peut être très, très high comme qui peut être très, très down.
Oui, on va en parler d'ailleurs. Ouais. J'ai juste une dernière petite chose là, juste avant de parler de la bipolarité, en fait, parce que c'est quand même quelque chose qui te touche. Je veux juste dire aux gens là, qui vivent l'infidélité dans leur couple, c'est pas parce que vous êtes infidèle que vous êtes fait nécessairement pour le libertinage.
Puis non, vraiment pas.
C'est ça. Donc, ça, je veux juste qu'on règle ça tout de suite. Là. C'est pas pour tout le monde, comme tu as dit tantôt. Donc, c'est vraiment un projet de couple. Là. C'est un projet de couple pour les couples qui sont déjà solides, déjà forts, et ou que pour des gens qui se rencontrent qui sont déjà du milieu idéalement. Donc, c'est la petite parenthèse.
Ouais.
Mais oui, on va parler, là, si tu es à l'aise avec ça, on pourrait parler de la bipolarité. C'est arrivé, en fait, est-ce que tu as toujours senti que tu étais atteint de bipolarité ou c'est quelque chose qui est relativement récent pour toi?
J'ai toujours senti que je pouvais être différent à l'école, plus jeune, sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que, ben, tu sais, on n'a jamais juste une maladie mentale. Tu sais, c'est commencé à en parler. Je savais que j'étais TDAH. Je ne savais pas c'était quoi l'autre, jusqu'à ce que j'atteigne peut-être l'âge de la vingtaine et que je me rende compte que, oh, OK, je peux avoir des très, très gros highs, faire des grandes, grandes choses, mais qu'à d'autres moments que, je peux être en petite boule dans mon lit puis pas être capable de rien faire, pas être capable de me lever pour avoir la motivation.
Batterie vide, totalement.
Ouais, puis juste avoir envie de mourir. Fait que ça a été ça, c'est là-dessus, puis de dire OK, qu'est-ce qui se passe autour de moi, pas trop le savoir, comment ça que je suis pas heureux, comment ça. Fait que ça, c'est juste parce que j'ai rencontré un client au Café Massaoui quand j'étais jeune, monsieur ouais. Copenrath, qui est décédé aujourd'hui, qui m'a pris en charge. J'avais une très bonne relation avec cette personne-là. C'était une très belle personne, très très belle personne. Et puis il m'a aidé beaucoup à comprendre c'est quoi ma bipolarité, à prendre en note aussi des moments de ma vie, parce que tu sais pas trop comment ça se passe. Et puis, ouais, c'est de là. Mais je l'ai toujours gardé caché. Ça a été très, très long avant que j'en parle. André, quand je l'ai rencontré,
ouais.
je voulais pas que le monde le sache. C'était comme, pour moi, c'est une maladie.
Okay.
Pour moi, j'étais un malade mental. T'sais, quand on dit malade mental, pas correct.
Mais j'avoue que c'était tabou jusqu'à il y a quelques années. On dirait que là, on en parle de plus en plus, puis les gens l'assument et osent en parler.
Ouais.
Et c'est beaucoup plus courant qu'on peut le croire. Là. Chaque fois qu'on a parlé de bipolarité ou d'anxiété ici, là, c'est fou, là, sur le live, les gens témoignaient. Dans ton cas, quand même, j'ai trouvé ça beau quand j'en ai parlé un peu avec André, justement. Tes moments de haï, en fait, ça t'a quand même apporté... Ça t'a quand même mené à de sacrées belles histoires, des beaux projets. T'es hyper créatif. Et c'est justement de là, je pense, qu'est venue l'idée, le potentiel que tu as vu en une caisse populaire de transformer ça en club libertin.
Ben, tu sais, le club belle, c'est la réalisation d'un homme qui allait mourir. Qui allait carrément mourir. J'avais quitté Desjardins parce que j'ai travaillé 10 ans chez Desjardins. C'est là-dedans aussi que j'ai travaillé dans la caisse que j'ai transformée parce que je me promenais dans plusieurs caisses. Donc, j'étais tombé en amour avec cette caisse-là. J'aimais la structure qu'elle avait. Je me suis dit, là-dedans, je peux ouvrir un club libertin. Parce que j'organisais souvent des parties, des soirées. Je faisais peut-être ça 4-5 fois par année. Des orgies avec 20, 40, c'est même arrivé 80 coupes à ce moment-là dans des lofts que je louais à Montréal. Et puis, je me disais... Je pourrais peut-être un jour avoir mon club.
Puis à cette époque-là, il y avait quoi? Un, deux clubs à Montréal, peut-être?
À ce moment-là,
il y avait l'orage.
Oui, ben, il y a eu l'orage. Il y avait, nous autres, on était trois à l'éclipse pour commencer.
Okay.
Il y a eu après ça l'entre nous deux. Il y a eu, il y en avait qui ça ouvrait, ça fermait, mais il n'y avait jamais rien d'écœurant. À chaque fois, tu rentrais, tu avais
l'impression de rentrer dans
c'est très dark. C'était pas toujours super propre. Tu sais, puis moi, je travaillais en restauration dans des grands restaurants. André aussi, elle a travaillé dans des super restaurants. Tu sais, il y a pas de carte des vins, il y a pas d'alcool qui est le fun à boire. Il y avait pas de profondeur. Il y avait pas une place que je pouvais dire, hey, moi, j'inviterais mes chums qui sont pas libertins pour venir prendre un verre dans cette place-là. Puis ils vont dire, waouh, c'est le fun, c'est beau. Tu sais, fait que.
Mais il y a quelque chose de presque poétique là-dedans, Mathéo, de prendre un endroit dans lequel tu as travaillé pendant un certain nombre d'années pour finalement te rendre compte que tu n'aimais plus ça, puis de le transformer dans ce qui s'apprêtait à devenir l'œuvre de ta vie, ou presque.
Vraiment.
Ouais. Vraiment, ouais, je sais, puis j'ai travaillé. Puis tu sais, c'est arrivé par hasard que j'aille travailler dans cette caisse-là parce que je changeais de projet chez Desjardins. Ils m'ont appelé un vendredi soir, il était 4h, je réponds au téléphone, ils me disent, Mathieu, c'est Mathieu Lapointe. Mathieu, on a besoin de toi, il y a une caisse que la fusion s'est pas faite cette semaine. Ils ont besoin d'un conseiller, c'est un petit projet. Puis là, j'ai dit non, ça ne tente pas de continuer de travailler dans des caisses qui vont fusionner. Je suis tanné de ça, puis ils m'ont dit, non, mais est à 5 minutes de chez toi et il y a un stationnement. OK, 5 minutes de chez toi. À Montréal, quand tu es à 5 minutes de chez toi...
Avec un stationnement.
Juste un stationnement vaut
je ne sais pas combien.
C'est ça. Fait que j'ai fait, OK, je vais y aller lundi. Puis quand je suis rentré là, le lundi matin, j'ai fait, j'ai trouvé ma caisse.
Wow!
J'ai trouvé la caisse dans laquelle je vais faire mon club libertin.
Ouais.
Puis ça a pris 6 ans. Puis ça a pris une dépression quand même vraiment incroyable parce que cette dépression-là a fait en sorte que j'ai quitté Desjardins. J'étais plus capable, j'avais de la misère parce que c'est des cycles. J'étais plus capable de performer, ça faisait un petit bout.
Quand tu dis des cycles, on parle de cycles de combien de temps environ, de up et down?
Okay. Ça va dépendre. Un gars, là, je viens de sortir d'une période down qui a duré à peu près 6 mois. Ça a été une des plus courtes que j'ai eues.
Est-ce que tu as des folies dépensières aussi qui sont reliées à tes high et tes down?
Ah oui. Des folies aussi, des expériences, des choses que je vais avoir faites.
Comme quoi?
C'est la première période down que je viens de passer au travers, que j'ai pas eu envie de mourir. Ça, c'est très dur. C'est ce combat-là de dire, j'ai envie de mourir, j'ai envie de plus être là, mais je veux pas abandonner mes filles, je veux pas abandonner André, je veux pas, je peux pas commettre ça sans en parler. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est de cette souffrance-là qu'on a quand on est bipolaire, de le faire dans le silence. De dire que tu souffres de vouloir mourir tout le temps, puis tu le fais dans le silence. Puis André, avant que j'allais être le bel, c'est la question qu'elle m'a posée, tu sais, quand elle voyait que j'étais dans le... Puis elle m'a dit, t'as-tu envie de mourir? Puis j'ai dit, oui, André, à tous les jours. Tu sais, c'est un combat présentement. Puis elle voyait que j'allais pas bien, là. Puis elle sentait tout ça.
Ouais.
Est-ce que André savait que j'étais bipolaire à ce moment-là? Non.
Elle se doutait qu'il y avait quand même...
Il se doutait qu'il y avait quelque chose. Non, ouais. Mes amis autour le voyaient, tout ça. Mais de là à dire que, tu sais, que je dise à tous les jours, je me bats présentement pour pas partir. Puis moi, j'ai un ami qui s'est suicidé, puis ça a été très, très dur à ce moment-là. Olivier, c'est un ami très proche. Puis c'est probablement lui qui m'a sauvé la vie aujourd'hui parce que le fait qu'il se suicide puis qu'il y avait un enfant... Je me suis promis de jamais faire ça à un de mes enfants.
Ah, oh, wow.
Fait que c'est. Puis, quand j'ai dit à André, j'ai dit, regarde André, j'ai dit, c'est à tous les jours, je sais pas si cette dépression-là, je vais être capable de m'en sortir, si je vais être capable de revenir heureux, tu sais, si je vais être capable de m'en sortir.
Tu voyais pas la lumière, là?
Ah, non, non, c'était comme, j'avais plus de but dans la vie, je
n'avais
aucun job que je voulais.
Pourtant, on s'est vu, là. Durant cette période-là.
Non, pis... non, ça, je parle avant d'avoir le club. Ça, c'est le
moment. Excuse. Ouais. OK. Parce que dans les six derniers mois, on s'est quand même vu, puis j'aurais pas pu. Il y a un soir, peut-être, que je chantais là, que t'allais pas trop bien, mais autrement, tu sais, j'aurais pas pu voir. Tu sais, t'étais quand même. Tu portes un masque.
Parce que là, maintenant. Mais là, on parle avant d'ouvrir le club. Ce qui est arrivé, c'est qu'André m'a carrément dit, on avait un triplex à ce moment-là. Puis André m'a dit, tu sais, Mathéo, elle dit, moi, si t'es plus là, elle dit, le triplex, là, ça me sert absolument à rien. Elle dit, tu sais, je serais jamais capable de m'en occuper. Je sais même pas si les loyers sont à combien. Je sais même pas, tu sais, elle dit, tu sais, Mathéo, elle dit, ça fait longtemps que tu veux t'ouvrir un club libertin. Puis elle dit, pourquoi tu te l'essaierais pas? T'sais, elle dit, vends le triplex, puis on avec l'argent qu'on va faire dessus, puis on va faire un all-in. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis quand je lui dis, en fait, un all-in, là, j'ai fait un assez gros all-in pour qu'André, elle sache même pas à quel point qu'on était endetté quand que j'ai tout fait ça. Mais
vous avez créé quelque chose de magique, là. C'est beau, c'est feutré. Les salles, les bureaux transformés en salles pour des actes sexuels, c'est magnifique. La salle de conférence qui sert de salle d'orgie, c'est quelque chose, là.
C'est toutes des choses que je m'étais imaginées avant. C'est ça qui était hot, parce qu'au moment qu'André m'a dit ça, elle m'a dit, regarde, elle dit, va aller, fais ton projet, là. Ça m'a fait, OK, parfait, go. Puis j'ai commencé à travailler sur ce projet-là avec la ville de Montréal. Ça a été tellement dur.
Mais
tellement
ça doit, comment expliquer ça à la ville?
puis moi, j'ai pas voulu être hypocrite. Moi, je suis allé voir la ville, puis j'ai dit, voici le projet que je vais ouvrir, puis j'ai encore le projet papier que j'ai monté, puis les gens capotent. Tu sais, j'ai carrément dit, moi, je rouvre un club libertin, puis ça va être de grandeur internationale. Je vous le dis, les gens vont capoter quand ils vont rentrer dans cette place-là. Puis je montais le projet, puis ça, puis la ville, c'était non. Juste à ce moment donné, je leur disais, regardez, là. Peu importe votre réponse, vous savez pas dans quel état que je suis présentement. Puis là, j'étais dans un high incroyable. Là. Je leur ai dit, je n'aurai pas un non comme réponse. C'est impossible. Je n'aurai pas un non comme réponse. Ce qui est contraire quand je promouvois le consentement dans mon club, puis tu dis, quand c'est un non, t'arrêtes ça là. Mais moi, pour ce projet-là, le non, j'allais pas l'avoir. Fait que j'étais à toutes les semaines à la ville de Montréal. Ils étaient écœurés de me voir. Je m'assoyais pour que les conseillers d'un bureau me voient, puis que je leur fasse des halos de la main pendant qu'ils étaient dans leur bureau pour qu'ils sachent que j'étais là, puis ils capotaient. Jusqu'à un jour qu'on disait, OK, parfait, tu vas avoir tes permis.
Puis là, au premier étage, là, c'est important de mentionner qu'il ne se passe rien de sexuel. Il n'y a pas d'acte qui se passe là. Donc, si vous avez envie juste d'aller voir l'ambiance, de découvrir un peu ça se passe c'est parfait.
Le pire, c'est que j'aurais pu avoir la sexualité au premier étage parce que c'est un endroit qui était réservé pour 18 ans et plus. Fait que j'aurais pu, mais moi, je ne voulais pas. Puis ça, c'est important, c'est que je veux que les gens qui rentrent ne soient pas... Tu ne sois pas frappé à ça. Puis j'utilise le terme frappé parce que c'est ça. C'est un choc. T'sais, combien y a de personnes qui ont déjà vu de la sexualité live? T'as des gens qui ont des relations sexuelles à côté de toi. Il n'y en a pas beaucoup.
Moi, j'ai pogné deux minutes. La première fois, même que j'ai pas aimé ça, je te dirais, là, de voir ça, j'étais, oh, OK, là, c'est pas un film, là.
Non, je peux pas faire play, puis stop, là, puis avancer, puis reculer.
Là, tu sais pas trop, tu sais, la personne avec qui j'étais, regardait, là, puis était comme super excitée par ça. Moi, j'étais comme, ben non, mais là, moi, je suis pas à l'aise, mais en même temps, les gens sont là pour ça.
Surtout la première fois, il y a un malaise.
Ça peut être un choc, là, vraiment. Fait que c'est vraiment bien fait, là, mais surtout l'ambiance qui est le fun.
Ouais. Ça, je savais qu'elle allait l'avoir. Ça, je savais que l'ambiance... Tu sais, si tu crées un endroit qui est chaud, un endroit qui tu sais, quand les gens rentrent, c'est quasiment amical parce que les gens se connaissent, c'est une petite communauté. Les gens, il n'y a aucune agressivité.
C'est tellement fun, ouais.
T'es là pour creuser, tu vas là avec ta conjointe pour rencontrer, pour avoir du plaisir. Puis ça se peut que t'aies de la sexualité, ça se peut que t'en aies pas, mais t'as passé un beau moment quand même. Et moi, je voulais pas qu'au premier étage, il y ait de la sexualité. Je voulais pas que quelqu'un rentre puis qu'il y ait une fille qui soit à genoux devant son chum qui est en train de faire une fellation puis que toi, t'as jamais vu ça. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas. Puis je voulais aussi que tu sois capable d'inviter des amis. Comme que, par exemple, que tu dis à ton voisin, hey, ben, venez-vous-en, je vais vous présenter une place qui est super le fun dans le quartier. C'est ça. Je voulais avoir que ça.
Inviter des moldus.
Non, hein? C'est
comme
ça.
Comme on dit, des gens qui ne sont pas du milieu.
Mais je pense que la qualité et la teneur de l'endroit que vous avez érigé, que vous avez mis sur pied, elle est intimement reliée à l'intensité que tu as, Mathéo. Mais justement, l'intensité que tu as, elle est peut-être aussi reliée à ton trouble de bipolarité. Comment tu concilies ça? Avoir un trouble de bipolarité qui prend probablement une grande partie de ton quotidien et gérer un club de cette ampleur-là?
Puis tu sais, j'aimerais aussi dire, c'est que la bipolarité non médicamentée.
Ben, c'était une de mes prochaines questions parce que la médication pour la bipolarité est reconnue pour rendre ses usagers très amorphes à l'occasion. Est-ce que par le fait de travailler dans un club aussi en sous-question, tu compenses par l'alcool?
Ben non, c'est ça. J'ai été chanceux parce que
tout à ton honneur.
J'ai pas de tendance d'avoir à boire. Puis tu sais, André trouve ça drôle parce que on va s'ouvrir une bouteille de vin. Puis moi, je prends à peine même pas un demi-verre. Puis tu sais, même au club, je bois pas vraiment pas beaucoup. Au niveau de la toxicomanie, oui, je vais consommer certaines drogues ici et là, mais rien de pour me dire, hey, j'ai un problème présentement. Faut j'essaie. Tu sais, c'est vraiment.
C'est très
social, tu sais. Puis je choisis, tu sais, mon poids de fumer du THC, oublie ça, mon cerveau va partir, puis je vais devenir anxieux, je vais devenir pas bien, là, je vais devenir comme dans des périodes que je vais pas bien. Fait que, tout ça, c'est mais le fait de pas prendre de médicaments me rend sur des highs qui sont incroyables, mais sur des downs aussi. Et je me suis rendu compte dans les dernières que j'ai eues, parce que j'essaie de comprendre vraiment comment mon cerveau fonctionne, qu'est-ce qui m'amène à me sentir comme ça aussi. Tu sais, qu'est-ce qui peut faire en sorte aussi que je devienne plus régulier dans mes humeurs, tu sais. Mais
As-tu déjà pensé regarder au niveau des hormones, l'andropause, ces choses-là, à savoir s'il n'y avait pas un impact peut-être aussi?
Ben, l'affaire, c'est que puis je me suis rendu compte, la dernière dépression que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas juste la sérotonine dans ton cerveau que t'as pu. T'as toutes les autres hormones qui vont
t'amener. Dopamine.
Exactement. Tu sais, aussi niaiseux que ça, j'ai commencé à me faire un tatou dans le dos. Je me suis dit, je vais me faire le dos complet dans une période high, là, tu sais. Mathéo, il y a des sous qui rentrent. Hey, moi, je me paye un trip. Ça fait longtemps que je veux faire le dos au complet. Go, je commence. Tu sais, à sorte de 500$ la session. Tu sais, j'ai de l'argent présentement, je vais être capable de me faire ça. J'ai commencé 4 sessions quand j'étais dans ma grosse période high, là. Je m'endormais pendant la session de tatouage. J'écoutais les livres audibles, puis je riais comme si rien n'était, parce que la douleur, j'en avais, mais c'était rendu, ça me faisait quasiment du bien. Je me sentais bien à me faire tatouer. J'étais allé au mois d'octobre pendant que j'étais à ma période d'âme. Hey, après 20 minutes, la tatoueuse, elle a arrêté, puis elle me dit, Mathéo, ça va-tu? Y a-tu quelque chose? Elle dit, t'as-tu consommé quelque chose? Je dis, je suis plus capable, j'ai mal, j'ai jamais souffert de même dans tes sessions. Elle dit, mais non, elle dit, Mathéo, d'habitude, tu t'endors pendant que je te tatoue. Elle dit, j'avais jamais vu ça.
L'endorphine, c'est que t'es plus, là.
Exactement. Et là, j'ai fait attends un petit peu, là. J'ai rien contre, mais j'ai rien, mais je suis dans une période down. Puis les fois, j'étais à mes périodes high. Fait que là, je viens de me rendre compte que les endorphines embarquent même plus. Fait que c'est pas juste une, c'est pas juste le bonheur, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je suis plus irritable aussi. C'est pour ça que j'ai pas de patience quand je suis dans mes périodes down, que je peux me mettre à crier après quelqu'un. Puis après ça, j'arrête de crier, puis je dis, hey, qu'est-ce que je viens de faire?
Puis est-ce que c'est difficile gérer un club avec ces conditions-là?
C'est au mois d'août, quand on s'est rendu compte, moi et André, que je tombais dans mon crash, puis que j'allais. Là, j'avais aucune idée. La pandémie m'avait aidé la première fois parce que j'avais réussi à me sauver ces deux années-là à être avec personne. Mais là, ouf, attends un petit peu, je suis gestionnaire. Mm-hmm. J'ai des entre. Juste pour vous dire, pourquoi que quand Mélanie nous a offert de faire la radio avec André, ça a été non, Mathéo, elle dit tu peux pas. Elle dit Mathéo, je te protège, là. Elle dit tu ne peux pas faire d'entrevue radio quand t'es dans ton dame. J'ai fait ouh, OK, c'est vrai. Puis, tu sais, André, c'est un ange gardien pour moi, le Cassawala. Là.
Tellement. Vous êtes tellement une belle. Vous formez vraiment une belle team. C'est ton encre.
C'est incroyable parce qu'elle, elle m'a dit non, Théo, tu peux pas. Elle a dit, je vais le faire. Puis elle a pris en charge le club. La période que j'étais down, là, André, elle s'est roulée les manches. Là, puis elle c'est des heures et des heures et des heures qu'elle s'est tapée. Elle faisait tout. Moi, je n'étais plus capable. Fait que, tu sais, le minimum de gestion que j'étais capable de faire. Puis après ça, c'est moi qui m'occupe toujours des soirs la fin de semaine. Mais là, ces soirs-là, là, il y a des soirées que j'ai dit, je ne suis pas capable. Puis je vais aller me coucher. Je me suis fait un petit local dans mon, j'appelle ça mon panic room, pour être capable de dormir. Puis je me réveillais, t'es rendu 6h, 7h le matin, puis la soirée était passée, puis j'ai aucune idée que c'était passé. Parce que j'allais me cacher, j'étais pas capable, je faisais des crises d'anxiété, tout ça. Puis tout de suite, mon staff, avant, au mois d'août, j'ai avisé tout mon staff, je les ai rencontrés un après l'autre. Un employé, une employée après l'autre, puis je leur ai dit, bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je suis bipolaire. Il y a des très fortes chances que, présentement, je tombe dans une période que vous ne trouverez pas que le Mathéo, c'est le meilleur patron, puis vous ne trouverez pas que Mathéo, il est tout le temps heureux, puis que, tu sais, je ne sais pas. Ça pourrait arriver que je prenne un rack de verre, puis je le pitche au bout de mes bras, sans trop savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ça se peut que je me mette à crier après vous, ça se peut que je devienne méchant, que, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, puis aussi niaiseux, tu sais, que. Puis, je me rappelle plein d'affaires que peut-être qu'il aurait pu se passer, en tout cas. Oui.
Mathéo, moi, je tiens absolument à vous lever mon chapeau, à vous féliciter parce que avec tous ces défis-là, vous avez en plus passé au travers de la pandémie alors que vous veniez ou presque d'ouvrir le club. Ça n'a pas arrêté, là, les défis. La vie vous a testé au max. Vous êtes encore ensemble aujourd'hui et je crois plus fort que jamais. En tout cas, vous êtes beau à voir aller. Le club, ça roule. Tous les auditeurs qui en ont entendu parler, qui sont allés, nous ont fait que de beaux mots, que de beaux commentaires, vraiment. Et là, c'est déjà la fin. On a même dépassé pas mal. Finalement, Colin, Debin, Mathéo, est-ce que tu accepterais de revenir pour une prise 2?
N'importe quand. Maintenant, je me sens bien. Puis André m'a laissé la permission. Elle m'a dit oui, oui.
Oui!
Elle dit vas-y, ça va te faire. Ça va te faire.
Mais tellement. Puis André va revenir également.
Ça aide beaucoup de gens aussi. Ça aide beaucoup.
Ah, mais vraiment.
J'aimerais juste terminer, moi, sur ces mots-là. S'il y a des gens ce soir qui ne se sentent pas bien ou dans les semaines qui s'en viennent, il y a beaucoup de places qu'on peut appeler pour aller chercher cette aide-là. Action Montréal. À Montréal. Puis je sais qu'à Québec, vous devez en avoir aussi.
Il n'y a pas le 988? Mon Dieu, c'est
le 988, c'est pour la Ligue de prévention anti-suicide.
Oui, une ligne de crise. Ça, donc, le 811, hein, si vous n'êtes pas sûr quoi que ce soit,
aussi,
le
811.
Donc, on peut vous référer. Là, je pense que c'est l'option 3. Donc, n'hésitez pas à consulter. Puis c'est vraiment de moins en moins tabou. Il ne faut pas être gêné de consulter pour des problèmes comme ça. Mathéo, t'es tellement inspirant, vraiment. On n'aura pas le choix de te réinviter. Tout le monde trouve que c'est tellement intéressant. Ça n'a juste pas de bon sens. On n'a même pas été du côté du BDSM parce que je sais que t'es un explorateur de ce côté-là et t'as essayé plein de trucs vraiment trippants. Écoute, c'est déjà la fin. On n'a pas le choix de terminer ça maintenant. Pour les gens qui veulent visiter le Club L, c'est leclubl.com.
Oui, exactement.
Également via vos différents réseaux sociaux. Donc, immense merci, Mathéo, d'avoir accepté cette belle invitation ce soir. On est vraiment contents d'avoir pu jaser avec toi, Max aussi, hein, depuis le temps que je parlais
merci.
De toi. Là.
Un très grand merci. Ça a été un plaisir de faire ta rencontre via l'audio ce soir. Mais quel parcours intéressant. Puis merci de t'être livré à livre ouvert comme tu l'as fait.
Vraiment, t'es authentique.
C'est ça, t'as eu raison de dire que ça va probablement aider certaines personnes.
Merci.
Vraiment. Ah, merci beaucoup. C'était Mathéo Lapointe, copropriétaire du magnifique Club L de Montréal, au parcours inspirant. Vous pouvez réécouter l'entrevue complète en rediffusion dès demain, en fin de journée. Donc, n'hésitez pas, c'est via La Sexploratrice sur Spotify, radiox.com, la section de La Sexploratrice. Demain soir, on reçoit Dr. Paul Simard, psychologue, et on répond à vos questions ou commentaires via la boîte à mail. Donc, ce sera une magnifique soirée également. Et c'était vraiment extra. Là. Vous étiez nombreux là, sur le live TikTok. Merci à nos modérateurs, à notre modératrice. Merci tout le monde via le live. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.